le Salon du plan Nord que nous allons ouvrir aujourd'hui, qui est déjà très populaire, les gens courent de partout pour entrer, est une occasion... C'est une occasion notamment pour les chercheurs d'emploi. Alors, à ceux qui frappaient à notre porte ce matin, on pourra leur offrir un emploi dans le Nord autant que possible, en espérant... va tous nous permettre de continuer à travailler fort.
Vous écoutez dans le champ lexical et cette semaine, le mot c'est Nord. Bonjour et bienvenue à Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Cette émission sur le Nord qu'on fait aujourd'hui et qui est très populaire, les gens courent de partout pour l'écouter, est une occasion notamment pour les chercheurs de bonne radio. Alors à tous ceux qui nous écoutent cet après-midi, on pourra vous offrir des entrevues et des textes sur le mot Nord autant que possible. Et ça commence de l'autre côté de cette musique. Je trouvais que ça avait un son un peu nordique. C'est tiré du premier album de Hélicoptère par Jérôme Minière. On va s'entretenir avec l'auteur Mélanie Vincelette.
Dans le champ lexical, cette semaine, on a le plaisir de recevoir Mélanie Vincelette, qui est fondatrice et directrice de la maison d'édition Marchand de feuilles et de la revue Zinc, revue littéraire Zinc. Son deuxième roman, Poligny, a été publié chez Robert Laffont l'an dernier. Et donc, on la reçoit aujourd'hui parce que ce roman-là, c'est l'histoire d'Ambroise, un cuisinier qui travaille dans une mine d'or et dont le frère est assassiné. Et lui va tenter de faire la lumière autour de ça et... Toute cette histoire-là se passe au Nunavut, dans l'archipel polaire canadien. Donc, Mélanie, bonjour.
Bonjour.
Le titre, d'abord, du livre « Poligny, ça a rapport avec le Nord ». Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, « Poligny », c'est un mot inconnu. Il n'est pas encore dans le dictionnaire Robert, mais c'est un mot qui est issu de la glaciologie. Donc, ça veut dire « un trou dans la glace ». C'est un trou de glace qui se referme jamais parce que les baleines viennent respirer à cet endroit-là. En anglais, on dit « breathing hole ». Donc, ça fait en sorte que c'est un genre de microcosme très riche en plancton parce que le soleil peut quand même transpercer cet endroit-là puis créer des algues. Donc, ça fait en sorte aussi que les ours polaires ils viennent pour manger à cet endroit-là parce qu'il y a un trou qui est toujours plein d'eau et plein de poissons qui viennent. Puis on dit à la fin de l'hiver, justement, les bélugas ont de très grandes graffinures sur leur peau blanche et des cicatrices parce qu'ils ont reçu des coups de griffes d'ours polaires dans les Poligny. Donc voilà, Poligny, je trouvais que c'était un très beau mot. Puis vu que c'est un mot rare et assez inconnu, je voulais le mettre au jour parce que c'est en même temps très significatif. C'est une métaphore, si on veut, finalement, dans l'Arctique, un endroit qui est comme un désert de glace. Il y a quand même une certaine richesse et un endroit qui peut pulluler. C'est un petit peu le miroir, si on veut, dans Poligny, du microcosme de la mine, qui est un endroit aussi fermé où il y a beaucoup de choses qui ressurgissent. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi Poligny pour mon titre de roman.
Et tu parles de la mine et de la richesse. Comment tu dépeins le Grand Nord dans ton livre? C'est vraiment un endroit où tous les prospecteurs sont attirés. C'est comme un nouveau Klondike, un nouveau Far West dont les gens veulent profiter. Veux-tu me parler un petit peu plus de ça?
Oui, bien, c'est fondamentalement, comme dans le nord du Québec, l'archipel polaire canadien est un endroit où on trouve presque tous les éléments du tableau périodique. Puis ça, je le mets dans Poligny. Donc, en ce moment, il y a une genre de ruée vers l'or, mais une ruée vers plein d'autres minéraux qui existent dans le sous-sol. Puis c'est quelque chose, je pense, qu'il faut s'attarder à ça. Donc, j'ai voulu l'inclure dans la littérature, dans un roman, parce que je crois que c'est quelque chose d'important. Donc, c'est une richesse qu'on a, puis c'est certain qu'il faut l'exploiter, mais il faut le protéger en même temps. Puis on sait même pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Moi, j'étais étonnée dans mes recherches. J'ai choisi un endroit qui est Kimiriut, mais fondamentalement, dans Poligny, j'en ai fait une mine d'or. Mais réellement, dans cet endroit-là, il y a une mine de saphir qui est détenue par des Islandais. Donc, c'est assez étonnant. On n'en entend pas beaucoup parler. Donc, j'ai trouvé ça vraiment magnifique de pouvoir magnifier ça dans un roman. Puis j'ai toujours été fascinée aussi par ça parce que dans ma famille, il y a beaucoup de gens comme mon oncle, mes cousines, mes frères qui ont travaillé dans des mines. Donc ça a toujours fait partie de mon univers. Donc le Nord a toujours été quelque chose qui a fait partie de moi. Donc, dans ce sens-là, cette richesse-là, je voulais la mettre en valeur. Puis, ça n'a pas l'air de ça, là, mais j'ai été comme élevée dans un camp de chasse, avec tous ces éléments-là qui font partie du vocabulaire nordique, si on veut. Donc, mon père, c'était comme un original, là, puis il portait un collier avec des dents de caribou quand c'était Noël ou des funérailles ou des mariages. Puis nous, on avait super honte, puis tout ça. Ma mère, elle nous amenait dans la forêt, voir les champignons sauvages le samedi, alors que moi, je voulais aller chez Simons. Puis des choses comme, genre, mon frère voulait une cassette de Nintendo là, pour Noël, mais à la place, il avait reçu comme un fumoir à truites.
OK, traditionnel.
Donc, le Nord, toutes ces choses-là, je connais ça. Là, je peux corder 5 cordes de bois en une demi-heure.
Mais toi, est-ce que tu es allée dans le Grand Nord?
Je suis jamais allée dans l'archipel polaire canadien, mais je suis allée dans le Nunavik, je suis allée dans le nord du Québec, à Iwoujivik. C'est le village le plus au nord du Québec. Puis ça aussi, c'est assez intéressant. Bon, j'avais choisi l'archipel polaire canadien, mais j'aurais pu aller garder ça dans le Québec parce que finalement, on y pense pas. Mais 80% du territoire québécois est détenu par 7 villages inuits. Puis ça, j'ai appris ça juste l'année passée. Je sais pas si c'est juste moi qui le savais pas, là.
Non, je pense qu'on sait très peu de choses sur le Nord, puis on en découvre plein dans ton livre, justement.
Puis quand je suis allée à Iwoujivik, je veux dire, c'était comme la Norvège, là. Il y avait des fjords, puis il y avait des baleines, puis c'était extraordinaire, puis magnifique. J'ai jamais été dépaysée, aussi dépaysée quand je suis allée là que dans ma vie, là. Puis j'étais allée en Bosnie-Herzégovine puis au Cambodge, là. Puis finalement, c'est la province du Québec qui était plus extraordinairement dépaysante que ces pays-là parce que finalement, là-bas, il n'y a rien, il n'y a absolument rien de ce qu'on connaît. Il n'y a comme pas de route. Premièrement, pour aller d'un village à l'autre, il faut que tu prennes l'avion. Petits avions, là. Puis les hôtesses de l'air, leurs habits, c'est des habits des côtes Canada Goose.
Est-ce que tu t'es inspirée de ton séjour au nord du Québec pour l'archipel polaire canadien?
Bien, ça m'a comme confortée. Vu que je n'étais pas allée dans l'archipel polaire canadien, je me suis dit peut-être que il y a eu plein de choses qui ont été comme des erreurs dans mon livre, puis tout ça. Mais finalement, quand j'ai visité le nord du Québec, j'ai vu toutes les résonances que j'avais apportées dans Poligny n'était pas si fausse que ça, puis ça m'a rassurée. Comme dans Poligny, j'avais mis une fille qui fait un petit jardin.
Oui.
Puis, parce que dans le fond, dans le Nord, il n'y a pas de terre non plus pour faire pousser des légumes ou des choses comme ça. Mais j'ai vu que c'était possible de le faire. Il y a des gens qui amènent de la terre puis qui font des serres là-bas.
Mais d'ailleurs, ça m'amène à te parler de la gastronomie nordique que tu as un peu inventée, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. Je me disais, c'est quoi, dans le fond, finalement, est-ce que qu'au Canada ou au Québec, est-ce qu'on a une gastronomie? C'est-tu vraiment, tu sais, la poutine puis le pâté chinois? C'est-tu vraiment ça, notre gastronomie? Ça serait dommage parce que, finalement, c'est pas des choses... C'est des choses qui existent dans plein d'autres cultures, ça. Comme le shepherd's pie puis tout ça, c'est bon. Donc je me suis dit, ah, les gens des pays d'Europe du Nord, eux autres, ils ont comme toute une genre de grosse gastronomie qu'ils font avec les plantes sauvages de l'Arctique puis tout ça, fait que j'ai décidé de travailler là-dessus un peu.
T'as fait des recherches, quoi? T'as lu des livres là-dessus?
J'ai fait des recherches sur les plantes qu'il y avait puis les possibilités puis les dans le fond, les remplacements qui étaient possibles, comme dans le fond, faire un tartare de bœuf musqué au lieu d'un tartare de bœuf, puis utiliser comme la pizza à l'ombre de l'Arctique. Ce qui est vrai, c'est servi dans les hôtels d'Iqaluit. Donc, ça aussi, j'ai fait des recherches sur les menus qui existaient aussi pour l'intégrer.
Je voudrais juste donner aux gens un petit aperçu de quoi ça peut avoir l'air, là, ce que tu avais écrit, genre... j'avais parfumé avec une seule feuille de thé du Labrador et de l'oseille de toundra en chiffonnade, de minuscules tétons de Vénus, de petites noires de Crimée et une dizaine de cornues des Andes. Tu sais, c'est tout est vraiment. À un moment donné, on parle aussi du noix des neiges. C'est pas tout à l'heure de goûter le Nord dans ce que tu décris. C'est vraiment intéressant.
J'ai eu beaucoup de plaisir à inventer ça. Puis c'est dans le fond un champ lexical intéressant à bâtir.
Oh, on a plugué le titre de notre émission. On aime ça.
J'ai découvert aussi des choses qu'on a, comme le matsutake, qui est un champignon sauvage qui est comme vraiment prisé par les Japonais, que ça coûte comme je sais pas combien, 1 000 $ le kilo. Les Japonais achètent ça, mais nous, on sait même pas ce que c'est, mais c'est dans nos pinèdres. Il y a du caviar de Corégone, qui est comme un poisson blanc, puis tout ça, qui est assez intéressant aussi, mais nous, on sait pas encore ce que c'est. Mais c'est normal, parce que dans le fond, notre culture est encore jeune, puis même ces pans-là de notre culture sont pas encore totalement développés, si on veut. Tout est à explorer.
Your short hand evolved to list all the damage that we've done to her. And have you grown your right claw that we may fight it out from our own corner? It's sad, it's all too bad. Girl that I'm so fond of.
Moi, je suis jamais allé dans le nord. Je suis jamais allé plus au nord que Rouyn-Noranda. Moi, j'ai fait des études en anthropologie, puis toutes mes recherches pour ma maîtrise et tout ça, ben, ils ont porté sur l'Inde, sur les photojournalistes indiens, pas amérindiens. Mais mon directeur de recherche, lui, il travaillait sur les Inuits. Donc, j'ai travaillé pour lui sur des projets Inuits, mais sans jamais me rendre sur place.
Mais ne jamais être allé plus loin que la capitale de l'Abitibi, ça n'empêche pas cet homme qu'on vient d'entendre de faire un travail qu'on croirait pourtant vraiment lié profondément à une connaissance intime du Nord.
Ce que je fais, c'est que j'enseigne l'histoire des Inuits aux Inuits.
C'est qu'au Québec, les cours d'histoire et de culture inuite que suivent les jeunes Inuits sont donnés à Montréal par des enseignants qui, parfois, ne sont jamais vraiment allés dans le Nord. Le prof du cégep Marie-Victorin qu'on a rencontré, un anthropologue québécois, n'est pas Inuit pour deux scènes. Il a même un prénom hindou.
Mon nom, c'est Gopesha Paquette. J'ai été élevé dans une communauté hindoue, mais de parents franco-canadiens. J'enseigne dans un programme d'intégration dans lequel sont inscrits des jeunes Inuits qui veulent poursuivre des études collégiales. Il n'y a aucun enseignement au-delà du secondaire qui se donne dans le Nord. On m'a dit qu'il y avait à Iqaluit une école de formation professionnelle. Mais pour ceux qui veulent poursuivre des études autres que professionnelles ou des études préuniversitaires, au Québec, au Nunavik, ben, ils viennent ici. Les anglophones vont à John Abbott, à Saint-Anne-de-Bellevue. Les francophones viennent à Marie-Victorin. Le groupe de nouveaux, eux, je leur enseigne deux cours. Un cours de méthodologie. Le deuxième cours, on va dire que c'est un cours d'histoire, mais à forte teneur culturelle, qui va de la préhistoire, donc jusqu'au premier peuplement du Nord, jusqu'aux années 50, mettons. Les années pendant lesquelles les dernières communautés inuites se sont sédentarisées. Le deuxième groupe, le groupe avancé, eux autres, on commence à partir de la fin des années 50. On voit toutes les questions entourant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, tous les changements qui ont découlé de cette convention-là. Puis donc, je fais ça jusqu'à... Moi, je vais me rendre jusqu'au référendum qu'il y a eu l'année dernière. Il y a eu un référendum déterminer s'ils étaient prêts à accepter une certaine forme d'autonomie. Bon, le fait que ce cours-là se donne dans le Sud, initialement, moi, la première réaction, ça a été, ben là, comment ça, qu'il n'y a pas des structures d'éducation dans le Nord, nanana. Puis, là, je me suis mis à y penser deux secondes. Puis, je me suis dit, regarde, là, c'est une question démographique beaucoup, là. Tu sais, ils sont peut-être 10, 12 000 dans le Nord, OK, répartis sur une quinzaine de communautés. OK, ils pourraient avoir un cégep dans le Nord. Mais qu'est-ce qu'ils offriraient comme cours? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y aurait comme offre de formation? Il n'y aurait pas grand-chose. T'sais, en venant à Montréal, ils ont accès à une douzaine de cégeps avec des centaines et des centaines de formations différentes. Ils trippent, là, venir ici, eux autres, là. Eux autres, ils trippent, là. Puis il y a plus de choses à faire, ils découvrent plein d'affaires, c'est la grande ville. C'est comme n'importe quel jeune de 18 ans, là, qui se pointe, qui arrive, qui découvre la grande ville, ils trippent, là. Il n'aurait peut-être pas envie de passer toute sa vie ici, mais c'est une période où il découvre, il trippe, il voit plein d'affaires, ça y ouvre les horizons. À un moment donné, je me suis rendu compte que, dans le fond,
que je fais, c'est que j'enseigne l'histoire des Inuits aux Inuits. Il y a un certain moment, je me sentais imposteur. Puis après ça, je me suis mis à réfléchir aux profs d'histoire que moi j'avais eus au secondaire ou au cégep. Puis, honnêtement, je me suis jamais fait la réflexion. Ce monde-là, il venait de où? Ces gens-là, ils pouvaient être un immigrant. Je m'en foutais, là. En soi, cette question-là me dérange pas. Moi, j'aime aussi bien que ce soit quiconque là, qui leur enseigne l'histoire, qu'il n'y ait personne à le faire. Mes étudiants, je te dirais, je commence à peine à apprendre à les connaître. C'est un peu tôt pour moi pour savoir comment ils se sentent dans cette situation-là. Ils se lancent beaucoup de petites craques en inuktitut que je comprends pas. Fait qu'ils sont peut-être totalement en train de se payer ma gueule sous ma face, mais je sais pas. Avec le temps, là, je vais voir, mais moi j'ai envie de savoir. C'est certain que j'ai envie de savoir qu'est-ce que eux pensent de cette situation-là. Fait que je vais être bien curieux de voir la réponse. Honnêtement, sur combien de cartes du Québec est-ce qu'on voit le Nord? Sauf les tout petites, là. Tu sais, les petites cartes où on voit le Québec dans le Canada, là. Tu sais, ta carte routière du Québec, là. OK? Ou la carte... Regarde, là, on vient d'avoir les élections, là. OK? Tous les résultats, là. Toutes les cartes de résultats, les cartes de circonscription, là, le Nord est choppé. Le Nord est pas là. J'espère honnêtement, là, avec le plan Nord puis tout ça, il va peut-être avoir énormément de dommages collatéraux, mais j'espère qu'il va y avoir des avantages collatéraux. Puis de un, c'est que les gens vont se mettre à, j'espère qu'ils vont se mettre à s'intéresser plus au Nord, puis à regarder un petit peu plus là, ce qui s'est passé là et ce qui continue à se passer. Quand un peuple passe de nomade à sédentaire, là, on s'entend, ça s'est pas fait en 20 ans, cela, là. Ça s'est fait en une centaine d'années, mais les derniers se sont sédentarisés dans les années 50. Hein, fait, il y avait encore des chasseurs nomades à cette époque-là. Puis c'était un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Là. J'espère qu'on va pas juste s'intéresser aux roches puis au pétrole, mais qu'on va s'intéresser aux gens là, qui ont vécu là, puis qui vivent là. Puis... l'histoire partagée.
La musique qu'on a pu entendre tout au long de l'entrevue avec M. Paquette était celle du DJ Matt Eskimo. Musicien électronique inuit, il vient de plus au nord encore que le point le plus au nord du Québec, il vient de Iqaluit, dans le Nunavut. Allez écouter ça, c'est ben bon. Matt Eskimo.
Kupanoa, nuzia, kau makatak pa, au lagay kaskal na ako, tapat ako, petong makalu, nagayak sa katya katong nakus. Nagayak sa kagalaw tuma, kasi ane kamila, inuto ko mila. Kasi ano tamanit. Bukad lang atik sa kapila.
Si vous parlez pas Inuktitut, vous avez probablement rien compris de l'extrait du film « Ce qu'il faut pour vivre » qui joue en ce moment. Vous vous sentez donc probablement comme les personnages de ce film de Benoît Pilon, écrit par Bernard Raymond. Au début des années 50, un chasseur inuit nommé Tivi est sorti des champs de neige où il vit pour être amené dans un hôpital de Québec pour soigner sa tuberculose. Et à Québec, personne ne le comprend, et même bien peu de gens tentent même de le comprendre. C'est un film magnifique sur le déracinement, l'importance de connaître ses racines et sur le grand fossé qui sépare trop souvent les Québécois des Autochtones.
Hey, madame, madame. Can I give you some money?
Et là, il vient de dire à sa femme, au téléphone, « J'avais jamais pensé qu'un homme pouvait se sentir plus seul au milieu des Blancs que perdu dans la toundra. » -78 degrés Celsius, c'est la température la plus froide jamais enregistrée dans l'hémisphère nord. De quoi donner des frissons dans le dos de n'importe qui. C'était le 29 janvier 1989 en Alaska. Et quand on pense à des froideurs pareilles dans le nord, eh bien, on a tout de suite le goût d'aller dans le sud, d'aller se réchauffer dans le sud. Et pourtant, on devrait pas, parce que c'est au sud que la température la plus froide sur Terre a été enregistrée. C'était en 1983, en plein mois de juillet, donc en plein été, en Antarctique, dans la station russe Vostok, située à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il faisait moins 89 degrés Celsius. À moins 89 degrés, il n'y a pas de quoi sortir les gougounes et le speedo. Alors pensez-y la prochaine fois que vous pensez à aller dans le sud. Et en attendant, vous écoutez dans le champ lexical, et cette semaine, le mot c'est nord.
Vraiment, je m'en aille.
Ouais, mais là, il fait frais dehors.
Je t'ai déjà dit non.
Bébé, il fait vraiment frais dehors.
Oui, il fait frais dehors. Oui, il fait frais dehors.
Afin d'évoquer le Nord, je vais vous parler de Thule. Thule. T-H-U-L-E. Vous voyez ce que c'est? Vous voyez pas? Visualisez-le. En lettres majuscules, blanches, un lettrage assez épais, bien imprimé sur du noir. Vous voyez maintenant? Thule, les barres qu'on met sur les autos, là, pour apporter des skis alpins. Mais non, je vais pas vous parler du support à ski qui se met sur l'auto. Je vais vous parler du lieu qui s'est appelé Thule dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, et qui a été choisi par cette compagnie de barres de support d'auto pour comme raison commerciale, parce que c'est pratique pour une compagnie que d'aller chercher un beau concept européen et mythologique. Donc, Thule, ça vient d'où? Eh bien, d'abord un aparté, avant d'y arriver. Vous savez, aujourd'hui, c'est chic, c'est peut-être même un peu dépassé, ce fut très hipster que d'aller en Islande. Tout le monde est allé en Islande et tout le monde se pâmait sur les geysers. Tout le monde, sauf moi, enfin bon. Les geysers, les Islandais qui sont à la fois toujours en 4x4 et étrangement égalitaires et écolos sur certains trucs, la géothermie, machin, bon, les bizarres de poissons marinés qui bouffent. Mais connaissez-vous le proto-hipster? Le premier Européen à avoir mis les pieds en Islande et surtout à l'avoir décrite. Eh bien, il s'agit d'un grec de Marseille, parce qu'à l'époque, Marseille appartient à l'Empire grec et donc les citoyens de Marseille sont également grecs. Donc, un grec de Marseille qui s'appelle Pythéas. Et, Pythéas, il faut croire que lui, la douceur de la Provence, j'imagine qu'il ne supportait pas la chaleur, ça ne lui a pas plu. Et il est parti dans une immense expédition au nord des terres connues de l'Europe et de la Grande-Bretagne. Et il est donc le premier à avoir décrit ce qu'il y avait au nord. Et il a nommé Thule une terre qui devait être l'Islande, quoique parfois on pense que c'était peut-être les îles Féroé. Mais bon, c'était dans le coin, très loin, très au nord. Et hélas, il nous reste que des fragments de son récit, des fragments qui ont été repris par plusieurs auteurs antiques, mais on n'a pas tout le récit de son voyage. Ce qu'il nous reste, surtout, c'est sa description du solstice.
Des barbares nous ont montré le coucher du soleil, car il arrivait dans ces lieux-là que la nuit était extrêmement courte. Elle ne durait que 2 ou 3 heures, et le soleil disparut sous l'horizon. Après un court intervalle, reparaissait à son lever.
Comme c'est un savant et un géographe, il en déduit d'une part que la Terre est ronde et que d'autre part, il est rendu au pôle. Donc, en fait, il avance des théories scientifiques qui sont tout à fait près de la réalité. Et l'autre chose qu'il décrit, c'est ce qu'il appelle un poumon marin. Alors là, il est un peu moins bon océanographe que géographe parce que il décrit qu'à un rendu à un certain moment donné, on ne navigue plus sur l'eau. Non, on navigue dans un étrange mélange d'air, d'eau et de solide, et il pense que c'est le poumon de la mer, qu'on voit plus la terre, qu'on est comme envahi dans des brumes et tout. Et bon, c'est très joli, toute cette idée de poumon marin, mais bon, nous qui vivons près du Saint-Laurent, on peut imaginer que ce qu'il a vu, tout simplement, c'est des glaces flottant sur la mer et la brume qui se dégage, vous savez, quand il fait très froid, de ce mélange d'eau et de glace qui se percute. Ben oui, mais bon, c'est sûr que sur la Méditerranée, des bouts de banquise qui flottent, c'est pas fréquent. Et de ces descriptions que Pythéas fait, du poumon marin, des habitants, du soleil de minuit, comme c'est repris par plusieurs auteurs de l'Antiquité, évidemment, au fur et à mesure des reprises, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, il se crée toutes des mythes et des légendes autour de cette Thulé si lointaine. Et entre autres, il y a un auteur qui s'appelle Eustate de Thessalonique qui raconte que Pythéas aurait vu un peuple qui menait une guerre terrible contre des nains hauts de 20 doigts. Une armée de nains hauts de 20 doigts, bien sûr. Ceci dit, c'est vrai que dans les contes et légendes et mythologies islandaises, il y a beaucoup de nains. Et il y a peut-être une petite confusion ici. Et donc, au fur et à mesure de ce bouche-à-oreille, de cette reprise dans des écrits, au Moyen-Âge, on va faire une distinction entre Thulé, qui devient comme la Scandinavie, et l'Ultima Thule, qui devient vraiment ce qu'il y a au-delà de la Scandinavie, au-delà des terres connues, et qui va finir par désigner véritablement l'Islande. Et c'est cette terre mystique et mythique qui est évoquée dans un poème de Goethe. On fait un saut du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Un poème de Goethe qui sera plus tard mis en musique par Schubert dans un magnifique lied qui s'appelle « Le roi de Thule », donc « Der König in Thule ». Ce texte de Goethe qui évoque donc la mythique Thulé, c'est plutôt un prétexte qu'autre chose. Si je vous lis le début de la traduction par Gérard de Nerval, par le poète français Gérard de Nerval, du texte de Goethe, vous allez voir que c'est pas exactement un récit de voyage en Islande. Il était un roi de Thulé à qui son amante fidèle légua, comme souvent d'elle, une coupe d'or ciselée. C'était un trésor plein de charme où son amour se conservait. À chaque fois qu'il y buvait, ses yeux se remplissaient de larmes. Cette récupération de Thulé comme un lieu de contes et légendes va se poursuivre toujours autour de Goethe et va même prendre une tangente ésotérique parce que, évidemment, une île au-delà des terres connues, pensez bien que c'est facile de l'associer à la mythique Atlantide. Et encore aujourd'hui, si vous faites des recherches avec Thulé, vous allez tomber sur une pléthore de fadaises ésotériques autour de ce lieu. Et plus tristement, c'est également Thulé et son mythe et le récit qu'en a fait Pythéas en 500 avant Jésus-Christ a été hélas récupéré également par la rhétorique du national-socialisme, donc des nazis, qui en faisait un des sièges de l'arianisme. Et ça aussi, ça a durement marqué les esprits. Et évidemment, c'est quelque chose dont les Islandais essaient le plus possible de se distancier aujourd'hui. Eux-mêmes ne revendiquent pas très exactement d'être l'antique Thulé, parce qu'il faut bien voir que les Islandais, là, ceux qui nous ont donné Björk et les Aransar, sont en fait des Vikings qui sont arrivés sur cette terre-là, sur cette île-là, bien après le premier passage de Pythéas. Alors, célébrons Pythéas, le proto-hipster, le premier à être allé en Islande.
Je m'appelle Ariane, je vis à Montréal, dans le sud. J'entretiens depuis quelques années une correspondance papier avec un ami qui habite, lui, dans le nord, dans un camp sans électricité ni téléphone, à plus de 350 km au nord de Baie-Comeau. Il vit dans le massif montagneux des Monts Gros, une contrée de taïga, de toundra, un des secteurs les plus spectaculaires du Moyen-Nord québécois. Les Innus appellent cet endroit Wapishka, les montagnes blanches, des montagnes qui sont recouvertes de poudreuses 9 mois par an. On se rend chez mon ami Michel en prenant la route 389, la Trans-Québec-Labrador, qui relie Baie-Comeau à Labrador City en passant par Fermont, là où Michel fait son épicerie. Il habite au kilomètre 365 de cette route, c'est ça son adresse, Michel, kilomètre 365, route 389. À 65 ans, il se chauffe du bois qu'il fend lui-même et m'écrit à la lueur de sa lampe à l'huile. C'est un ex-potier qui était auparavant établi en Estrie. Il gagne maintenant sa vie en guidant des expéditions en ski ou en canot pour des groupes de touristes, le plus souvent européens. À dormir sous les tentes en grosse toile, à jaser autour du feu ou sous les étoiles, à pagayer le long du cours tranquille des rivières bordées de conifères, les gens qui visitent mon ami Michel au nord entrevoient un peu, un tout petit peu, ce qu'a pu être la vie des trappeurs au premier jour de notre pays ou encore celle des Premières Nations jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Quand mon ami Michel prend ses vacances, il descend en pleine ville, à Toronto, voir une de ses amies, ou encore à Montréal, où habite son fils. Le plus souvent, c'est ici qu'on se voit, à Montréal. On part alors se promener dans les rues asphaltées des quartiers centraux. C'est là qu'il veut aller. Et à chaque fois, au bout d'un moment, il me dit « Ah, je suis fatiguée! Je marche jamais sur du béton. C'est tellement plus dur pour les jambes! » On se dirige alors vers un café, on s'assoit et on jase, très souvent d'actualité. Michel est au courant de tout ce qui se passe ici et dans le monde grâce à sa radio Onde Courte. Parfois, Michel m'appelle sur mon téléphone portable. Il est à Fermont chez un ami. Ça arrive souvent que je lui réponds alors que moi, je suis sur une rue passante, bruyante et que je marche d'un pas pressé. Michel, sans le vouloir, me ramène à l'essentiel. Si je peux, je ralentis, je me trouve un coin tranquille, je me prends une pause et on jase du temps qu'il fait chacun chez nous, de ce qui se passe dans nos vies. Mais le plus souvent avec Michel, c'est par lettre qu'on communique. Il m'en a envoyé une cet été. Lundi 16 de juillet, chaud et pluvieux, plus 20 degrés dans les monts Wapishka, c'est chaud pour ici. Bonjour Ariane, bonjour. Je suis arrivée à mon camp d'hiver, arrivée avec hâte, arrivée avec tant de bonheur après ce périple nomade sur les routes du sud du Québec. J'y ai vu mes proches et mes amis et mes relations, mais c'est dommage, on n'a pas pu se voir. J'avais pas pu le voir cet été quand il est passé. Au retour, j'étais bien heureux de lire ta lettre, de lire ce que tu vis. L'an prochain, crois-moi, je m'y prendrai d'avance pour qu'on puisse se voir lors de mon passage en ville. Je compte descendre vers la mi-juillet en 2013. Ne t'en fais pas si tu n'es pas venu cet hiver. Ce sera pour un autre hiver. Ici, le temps ne compte pas trop. Nous vivons dans deux univers différents. Mais enfin, je serai bien heureux de t'y accueillir et de te présenter l'univers du kilomètre 365. Donc, je suis revenue. Je plante des fleurs et je me mets au mortier de la cheminée bientôt. Aujourd'hui, je décharge mon camion qui, comme d'habitude, est surchargé. Il est surprenant qu'avec toutes ces années de surcharge, je n'ai eu aucun accident. Mais, comme on dit, il y a un bon Dieu pour les innocents. L'innocent, c'est moi, pas le bon Dieu, évidemment. Je t'écris à ton ancienne adresse. J'espère que le courrier te sera acheminé, là où tu habites, près du marché Jean Talon, là où il y a de si jolies grosses jardinières en terre cuite. Comme toi, je suis le printemps érable. Ces manifestations d'étudiants sont très justifiées et encourageantes. Bravo pour leur engagement à une société plus équitable. Pour cause d'éloignement, je ne peux pas participer, mais je les suis sur ma radio Onde Courte. J'espère que tout va bien pour toi, j'espère qu'on pourra se voir quand je descendrai en juillet 2013, ou même encore, peut-être avant, si la route Trans-Québec-Labrador éveille ta curiosité, et encore plus le kilomètre 365. Porte-toi bien, Ariane. Résiste bien aux canicules en série. Il me fait un clin d'œil. Amitié, Michel.
Le plan Nord et ses promesses d'avenir florissant vous donnent une impression de déjà-vu? Il fut en effet une époque où, plein d'espoir, on partait vers ces villes de compagnie dans le Nord pour trouver la prospérité. Et après des années, vos enfants bien enracinés dans ce sol qui les a vus naître, on vous annonce que la mine ferme et que vous devez quitter la ville. En 1984, Jacques Leduc et Roger Frappier réalisent Le Dernier Glacier, film basé sur cette dure réalité vécue par les habitants de Schefferville 2 ans plus tôt. Michel Rivard en a créé le thème, Schefferville, le dernier train.
Il n'y a plus rien au Roxy depuis quelques mois. Il y a de la neige dans la porte du vieux cinéma. Dans la rue, un chien jappe et se prend pour un loup. La nuit tombe sur la ville qui m'a donné le jour. À la brasserie, ça chante plus fort que d'habitude pour la fête à Johnny qui s'en retourne dans le sud. Mais le sud de Schefferville, c'est pas la Jamaïque, c'est Québec ou Matane ou le Nouveau-Brunswick. En novembre passé, ils ont fermé la
J'ai vu pleurer mon père sur la table de la cuisine. C'était pas temps de perdre une job assurée que de voir s'évanouir le rêve de 30 années. Quand je suis venu au monde, ils étaient jeunes mariés, venus trouver l'amour et la prospérité dans une ville inventée par une grosse compagnie, en plein nord, en plein froid et en plein paradis. Aujourd'hui, ça me fait mal de voir tout le monde partir. C'est ici que je suis né, c'est là que je veux mourir. Avec une caisse de 12, une aurore boréale, la femme de ma vie couchée sous les étoiles, couchée sous les étoiles. J'ai passé ma jeunesse à prendre les bois, à la chasse, à la pêche, à boire avec les gars, un skidou entre les jambes et l'orgueil dans le cœur. Je suis devenu un homme et j'ai connu la peur. Sur les traces de mon père, je suis parti travailler et la mine de fer est devenue réalité, comme l'amour de ma femme et la chaleur de mon foyer et la peur de me faire prendre tout ce que j'ai gagné. Aujourd'hui, ça me fait mal de voir tout le monde partir. C'est ici que je suis né, c'est là que je veux mourir. Avec une caisse de 12, une aurore boréale et la femme de ma vie couchée sous les étoiles, couchée sous les étoiles. Et au bout de la ligne, c'est l'histoire qui décide si le poids de nos rêves nous entraîne dans le vide. Je suis monté à pied sur la côte du radar. J'ai vu mourir ma ville sous le soleil du nord. C'est pas moi qui peux changer le cours de la vie. S'il y a personne qui reste, je vais partir moi aussi. Mais c'est moi qui veut fermer les lumières de la ville lorsque le dernier train partira pour cette île. Lorsque le dernier train partira pour cette île.
Pendant qu'on avait Mélanie Vincelette avec nous, on en a profité pour lui demander de nous lire deux extraits de son roman Poligny, paru chez Robert Laffont. Je vais lire le chapitre 7, intitulé « Le nouveau Klondike ». Alors, le mot « glace » a été utilisé pour la première fois en Occident par Chrétien de Troyes, afin de désigner un miroir. Au pays des métaux précieux, j'avais l'impression d'être deux fois moi-même, de voir mon image reflétée partout. Dans l'eau gelée, quand nous survolions le détroit du vicomte de Melville, dans les montagnes roses au coucher du soleil, dans les aurores boréales qui ondoyaient comme des rideaux de soie sarcelles dans le ciel noir. Au Nunavut, la nature n'accordait aucun passe-droit. Tous les hommes étaient fragiles et n'avaient d'autre choix que de dire la vérité au risque de perdre leur vie.
La mine d'or se trouvait derrière ce que les Inuits appellent le Rocher des Violettes, vers le nord, à 2 jours de traîneau à Chien-Likaluit, la capitale du Nunavut. Les habitants de l'île de Baffin aimaient dire que tous les éléments du tableau périodique étaient présents en abondance dans leur sous-sol. Ici, jadis, on avait échangé des casseroles contre des mitaines en peau de phoque. Maintenant, des bimoteurs remplis de touristes traquaient des icebergs presque aussi grands que la France et des baleiniers malchanceux se faisaient tirer vers le fond avec leur équipage par des cétacés qui pesaient des tonnes. Sur l'île de Baffin, les Blancs venaient travailler avec l'idée de faire fortune grâce à leur salaire gonflé par des primes d'éloignement et toujours avec l'arrière-pensée de mettre une énorme pépite d'or brut dans la poche de leur anorak. Une pépite qui paierait les études universitaires de leurs enfants et petits-enfants et aussi leur retraite. Les Inuits croient en la réincarnation. Ils vous apprendront à ne jamais dire du mal de votre belle-mère, car elle se vengera quand elle reviendra sur Terre dans l'esprit de votre fils. Tommy commence souvent ses phrases par les mots « quand j'étais mon grand-père paternel ». Il est convaincu d'avoir été son aïeul, puisqu'à sa naissance, il louchait légèrement de l'œil gauche et que son grand-père avait perdu le même œil dans un accident de chasse. Le lundi matin, avec le sentiment du devoir accompli, je suis allée rencontrer Brice pour confirmer que je prendrais des vacances à Montréal. Sur mon chemin, une énorme volée de bernaches a obscurci le ciel. Les bernaches du Canada sont des animaux très fidèles, inséparables. Elles vivent en couple toute leur vie. Ces animaux sont gigantesques et leur migration est spectaculaire, presque émouvante. En m'approchant du bureau de Brice, j'ai été bloquée par un gros embouteillage de camions Ben sur la route qui aboutit à la Guérite. Au centre du chemin se trouvait une énorme femelle noire et grise qui veillait sur la dépouille écrasée de son époux. Elle était résolue à rester près de son défunt, qu'elle poussait de son bec de temps à autre. Les ouvriers s'impatientaient. Le conducteur du camion, immobilisé, est descendu de son véhicule, a soulevé la dépouille de la grosse oie écrasée et l'a lancée en bordure du chemin. Paf! La femelle continua de tenter de réanimer sa douce moitié par des coups de bec. L'embouteillage était résorbé. L'épisode m'a fait sombrer dans la mélancolie.
C'est sur la musique nordique des Islandaises du groupe Amiina que se termine cet épisode de Dans le champ lexical. Dans le champ lexical est une émission de Mathieu Charlebois, Joannie Larue, Nancy Caouette et Christiane Campagna. Nous ont beaucoup, beaucoup aidé cette semaine Lisanne Rault-Leblanc qui nous a offert l'entrevue avec l'auteur Mélanie Vincelette et Ariane Jacob qui nous a offert un texte sur son ami qui habite dans le Nord et une entrevue avec Gopesha Paquette. Chloé Barry nous a entretenus de Tulle et le thème musical est une création de Sonny Duval et Mara Tremblay. Revenez-nous la semaine prochaine, non pas pour le mot sud, ça on va faire ça dans 2 semaines, mais plutôt pour le mot danger. Et d'ici là, restez à l'écoute de CIBL.